Présence, une émission présentée par Patrice Javet. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
Bienvenue à tous dans les portes de la connaissance. Alors aujourd'hui, on va pas faire une émission comme d'habitude parce que il n'y a pas d'invité, voilà. Donc vous avez l'habitude de m'avoir à la radio pour des émissions différentes sur le Big Bang. Je vous avais fait des émissions sur des anciennes civilisations, les peuples bâtisseurs. J'avais fait des émissions sur l'ufologie. Voilà, étant moi-même astrophysicien, enfin, disons que j'ai étudier l'astrophysique en tant qu'autodidacte et en ufologue pour mon repas ufologique et des anciennes civilisations dont j'ai lu de nombreux ouvrages, ce qui m'a permis, après de longues années d'études personnelles, de pouvoir faire des émissions sur les sujets. Alors aujourd'hui, on va faire une rétrospective de tout ça et on fête l'anniversaire des 2 années. Et oui, déjà 2 ans que nous sommes ensemble avec les portes de la connaissance, 2 années entières. Et bien, on fête l'anniversaire parce que, effectivement, et on va voir ensemble, on va faire un petit survol. Alors d'abord, on va parler des étoiles. Ensuite, en deuxième volet, on parlera des ovnis. On reviendra sur l'ufologie. Et en troisième volet, on parlera des anciennes civilisations. Et voilà. Et on va faire un survol de tout ça. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire exactement sur le, si on résume un petit peu tout ce qu'on a vu avec les scientifiques qui sont venus nous voir dernièrement sur les étoiles, sur l'univers. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ben, on peut dire tout simplement qu'il y a un grand mystère derrière l'univers. Hein, rien n'a été résolu véritablement. Il y a des recherches qui ont été faites qui sont extraordinaires sur l'univers et sur les étoiles. Des recherches poussées qui ont été faites par de grands astrophysiciens comme Alain Blanchard, comme Jean-Pierre Luminet, Hubert Reeves, Brian Greene, et j'en passe, et il y en a bien d'autres. Tous ces scientifiques, qui sont nombreux et qui font des études poussées, partent d'une théorie qui s'appelle le Big Bang. Et le Big Bang, c'est ben, soi-disant la naissance de l'univers. Donc il y aurait eu une naissance de l'univers. Oui, effectivement, d'après les astrophysiciens qui sont venus ici, d'après les astrophysiciens qui font des études sur la naissance de l'univers, il y aurait un point zéro, point très petit, qui aurait donné naissance à un univers que nous connaissons, celui dans lequel nous vivons, et qui aurait donné les étoiles et la galaxie de l'univers, qui sont au nombre de 1000 milliards, enfin plus de 1000 milliards, parce que l'univers observable aujourd'hui est à 1000 milliards, de galaxies, il y en a beaucoup plus puisqu'on ne peut pas voir plus loin que l'univers observable, et donc il y aurait énormément d'étoiles, énormément de galaxies. Imaginez un petit peu ce que ça représente, 1000 milliards de galaxies couronnées par chaque galaxie ayant à peu près 200 milliards d'étoiles, 200 milliards multipliés par 1000 milliards. Imaginez un peu le nombre que ça représente d'étoiles, c'est carrément gigantesque. Alors sur ce petit nombre, vous avez un petit nombre d'étoiles qui abriteraient des planètes éventuellement habitables. Donc si on en prend 0,1%, ce qui est très peu, 0,1% de 1000 milliards multiplié par 200 milliards. Imaginez la quantité de planètes habitables. C'est carrément colossal. Après, vous avez des gens qui vous disent « Oui, vous savez, on n'est pas sûr que nous soyons les... On n'est pas sûr qu'il y ait de la vie dans l'univers. » Alors, je respecte beaucoup la vie de tout le monde. Je respecte beaucoup la vie de chacun. Il faut bien constater que sur les nombres d'exoplanètes qui ont été observées et les planètes qui sont potentiellement habitables, il y a de fortes chances pour que la vie règne partout dans l'univers. On y reviendra tout à l'heure avec les ovnis, on y reviendra tout à l'heure à la fin de cette émission sur les étoiles. Le Big Bang, c'est quoi ? Ben, le Big Bang, c'est tout simplement la naissance de l'univers, un flash, une explosion gigantesque. L'univers se forme, les protons, les neutrons, les électrons, toute la matière se forme, les nucléons, comme on appelle ça, les noyaux d'atomes. Et ensuite, l'univers grandit, s'expande, il devient de plus en plus grand, de plus en plus grand. Et au bout de 380 000 ans, il se stabilise en un magma, enfin oui, on n'appelle pas ça un magma, parce que le magma c'est pour la lave, on appelle ça un plasma. En un plasma qui contient effectivement toute la matière que l'univers a fabriquée à l'époque. Les électrons, les neutrons, les protons, donc l'hydrogène et l'hélium qui ont été fabriqués, le deutérium. Et donc, d'un seul coup, cette quantité, je dirais, de matière va s'allumer, va libérer l'énergie photonique, donc les photons, parce que les électrons arrêteront de s'exciter à cause de la grande chaleur du plasma. Les électrons vont moins s'exciter, le plasma va refroidir, et au bout de 380 000 ans, la lumière va être libérée dans l'univers, et cette libération d'énergie va créer la première lumière que nous connaissons, donc le flash qui a été vu, détecté par Penzias et Wilson à l'époque avec leur radiotélescope. Et donc on découvre effectivement qu'il y a eu un commencement de l'univers, parce qu'on découvre qu'il y a eu un flash dans l'univers, une énergie qui est responsable du commencement de ce que va connaître l'univers, son épopée formidable. On forme les galaxies, on forme les étoiles, L'univers continue à grandir et nous formons les étoiles que nous connaissons très bien. Et les étoiles que nous connaissons très bien, eh ben, c'est la matière que nous connaissons, puisque les étoiles fabriquent de la matière. Les éléments du tableau de Mendeleïev, qui sont les éléments de la vie, puisque sans cette matière, il n'y aurait pas de planète, il n'y aurait pas de vie. Il faut savoir que les étoiles sont des dieux, parce que les anciennes civilisations, on y reviendra tout à l'heure, considéraient les étoiles comme des dieux. Le soleil était considéré comme un astre royal par les Incas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les étoiles fabriquent de la vie. Sans étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de vie. Donc les étoiles sont comme des dieux pour eux. Effectivement, les étoiles fabriquent de la vie, c'est-à-dire que vous avez un cœur d'hydrogène et d'hélium qui chauffe à une très haute température, plus de 10 millions de degrés, et c'est par fusionnement des noyaux d'atomes, les noyaux deviennent de plus en plus lourds, fusionnent les uns avec les autres pour donner de la matière plus lourde, et produisent de l'hélium, de l'hydrogène fabrique de l'hélium, et on arrive à fabriquer la machine nucléaire du Soleil qui fabrique énormément d'énergie. Voilà. Et là, vous avez effectivement le Soleil, qui est une étoile, qui fabrique. Alors, comment ça fonctionne ? Ben, vous avez le cœur de l'étoile, qui est une centrale nucléaire, de fusion nucléaire, pas de fission, de fusion. Et là, vous avez de l'énergie en grande quantité qui est libérée. Et puis, vous fabriquez de l'énergie de plus en plus lourde, jusqu'à ce que les noyaux d'hélium deviennent, je dirais, le soleil devienne de l'hélium. Et quand le soleil ne peut plus produire d'énergie parce que l'hélium a été consumé, parce que l'hydrogène a été consumé, on remplace le cœur du soleil par de l'hélium. Il n'y a plus d'hydrogène, il y a de l'hélium. Et on assiste à un arrêt, disons, on n'arrive pas à un arrêt progressif, mais disons à un sursaut d'énergie qui va donner naissance à d'autres organismes comme du carbone, de l'oxygène, jusqu'à ce qu'on arrive au fer, où le fer ne peut plus consommer, ne peut plus produire d'énergie, le fer absorbe de l'énergie. Et là, l'étoile, effectivement, s'effondre sur elle-même et on assiste à l'explosion de l'étoile, c'est une supernova. Ça, c'est pour les géantes et les supergéantes. Pour le cas du Soleil, on va sur un stade qui s'arrête avant le fer. Et là, on a effectivement l'étoile qui se dilate, qui grossit, qui devient de plus en plus grosse. La gravité ne peut plus retenir le plasma au contour du Soleil et il se diffuse et il meurt en murmure et il reste une naine blanche au centre, une petite étoile de type naine blanche qui est extrêmement lourde, qui est le reste du cœur de l'étoile. Et là, on a la transformation du Soleil en naine blanche. Et ce qui se passera pour notre Soleil quand il sera mort ? Et on assistera à la transformation du Soleil en géante rouge, puis en naine blanche. Puis pour les supernovas, ben c'est différent. Quand l'étoile meurt, elle s'effondre sur elle-même, rebondit, tasse le noyau, qui se transforme en étoile à neutrons ou en trou noir. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà comment, notre Soleil, ou éventuellement une supernova, peut fonctionner. Alors, il faut savoir que le processus des étoiles, c'est un processus qui s'est fabriqué dans le temps et que les nébuleuses fabriquent les étoiles. Autrefois, il n'y avait pas de nébuleuses, c'est dans le plasma primordial que découvert par Penzias et Wilson que sont formés les premiers grumeaux qui ont formé les premières étoiles par accrétion de matière, par gravité, d'abord par électricité statique et par gravité, ensuite, et a formé la première matière que nous connaissons très bien. Et après, on a formé des planétoïdes autour d'étoiles, des galaxies, et les premières planètes, les premières étoiles. Les étoiles les plus grosses au départ étaient des super grosses étoiles, des super géantes, qui ont donné naissance à des plus petites étoiles après, par leur explosion en supernova, et qui ont donné des nébuleuses qui, par elles-mêmes, en effondrement gravitationnel, ont donné des grumeaux qui ont donné des petites étoiles. Et ces petites étoiles, avec le reste de matière, c'est-à-dire le silicate, tout ce qui était autour, ont formé des disques d'accrétion qui ont formé les premières planètes. C'est ce qui s'est passé dans le système solaire, qui ont formé des planètes plus lourdes vers le centre et des planètes gazeuses vers l'extérieur. Voilà, le système solaire s'est formé de cette manière. Il faut savoir que le Soleil est né, les disques d'accrétion de matière lourde se trouvaient à côté du Soleil, ont formé des planètes par accrétion de matière. Et puis on a les planètes gazeuses qui se sont formées vers l'extérieur, puisque les gaz s'éloignent vers l'extérieur avec la force d'inertie, puisque les gaz sont plus légers, et on a formé le système solaire. On a formé ce que vous connaissez, la Terre, Mars, qui est une planète tellurique. Il faut savoir que Vénus est une planète tellurique, Mercure est une planète tellurique, voilà. On a ces quatre planètes telluriques, dont la Lune qui est un planétoïde, voilà. Et on a effectivement après Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Pluton qui n'est plus considéré comme une planète, mais qui fait partie d'un planétoïde. Voilà, on a effectivement toutes ces planètes qui forment le système solaire. Et on recherche de la vie, évidemment, dans l'univers. On recherche de la vie. On a commencé par la recherche de la vie dans le système solaire sur la planète Europe, qui est une planète glacée, sur la planète Io, sur la planète... Il y a d'autres planètes, alors il y a la planète Io, il y a la planète Europe, il y a Titan, il y a toutes ces petites planètes planétoïdes qui tournent autour de Mercure ou de Vénus et qui abriteraient éventuellement des bactéries ou de la matière organique qui pourrait fabriquer du vivant, puisque les conditions nécessaires réunies seraient adéquates pour fabriquer du vivant. Donc les astrophysiciens envoient des petits robots, des petites missions, je dirais, d'observation pour observer ces planétoïdes et pour voir si on découvre de la vie. Chose qui serait formidable si on découvrait de la vie. Ça voudrait dire qu'il y aurait de la vie. On serait certain qu'il y aurait de la vie partout dans l'univers. On en serait certain. Alors, des planètes, on en découvre petit à petit avec l'observation qu'on en fait. Sur la spectrométrie, on découvre, c'est une méthode de détection des ondes qui découvre si on a de l'atmosphère sur une planète qui pourrait être similaire à celle de la Terre. Et on a découvert évidemment des milliers de planètes, c'est-à-dire des exoplanètes un peu partout dans notre région, je dirais, de notre galaxie, région visible évidemment. Et on pense que sur ce petit nombre de planètes qu'on a découvert, il est fort probable que le reste des planètes, il y en ait qui ait la possibilité d'abriter de la vie. Alors c'est extraordinaire parce que on se rend bien compte que ces planètes-là sont peut-être là pour nous montrer que s'il y a des planètes dans l'univers, c'est justement parce qu'il y a de la vie. Vous savez, je crois que ce qu'il faut faire, il faut faire la part des choses. Les planètes, il y en a. Des étoiles, il y en a il y en a plus de 1 000 milliards de 1 000 milliards de 1 000 milliards. C'est gigantesque la quantité d'étoiles qu'il peut y avoir. Donc sur ce nombre, il y a des planètes qui tournent autour. Et sur ce nombre, il y a une petite quantité qui pourrait abriter des planètes habitables. Et sur ce petit nombre encore, il y a des planètes qui pourraient abriter de la vie. De la vie intelligente, de la vie très intelligente, de la vie extrêmement intelligente, ou de la vie archaïque, de la vie indigène, ou tout simplement des animaux, des plantes. Donc on a une quantité de possibilités qui font que la vie peut se développer un peu partout sur ces planètes. Et sachez que sur 0,001%, ce n'est pas beaucoup, c'est 0,001% des planètes qui abritent de la vie intelligente ou très intelligente. Ça représente sur des centaines de mille milliards de planètes une possibilité de faire qu'on aurait effectivement extrêmement... On aurait beaucoup, 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 beaucoup de planètes habitables. Ce qui est une petite quantité, infime, par rapport au nombre d'étoiles et de planètes, mais 0,001%, ça représente tout simplement une quantité gigantesque de possibilités de vie. C'est-à-dire que la vie serait universelle, il y en aurait partout dans l'univers. Après, vous avez des gens qui vous disent « Oui, mais on n'a aucune preuve. » Parce que l'homme a caractérisé sa recherche sur ce qu'il connaît sur Terre et sur le monde vivant cartésien dont nous sommes enfermés, où nous n'allons pas envisager que nous puissions être, je dirais, entourés de vie partout dans l'univers, parce que nous n'en avons jamais rencontré véritablement, à part les ovnis, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Enfin, voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. Enfin, c'est un petit résumé de ce qui a été dit par les scientifiques, un petit résumé que moi, j'ai élaboré par rapport à mes connaissances aussi. Donc, on peut dire que la vie existe un peu partout et que l'univers est formidable et fabuleux. Voilà. Donc, la page d'astronomie, ben, on la referme pour aujourd'hui. C'était une petite parenthèse pour vous montrer que finalement, la vie peut se développer partout dans l'univers. On peut envisager effectivement que la vie se développe partout en dehors de notre galaxie, éventuellement, et que l'univers s'est formé de telle ou telle manière. Alors, des théories sur l'expansion de l'univers, sur les théories qui sont les théories de l'expansion, du fait que l'univers se répand, s'accélère dans son expansion, l'univers mourirait progressivement, mais on ne sait pas trop comment. Il y a des théories, il y a beaucoup de théories. Je vous ferai bientôt une émission spéciale sur les théories qui ont été dites par Brian Greene et sur mes théories personnelles sur l'univers, comment il peut naître, comment il a pu naître et comment il pourrait mourir éventuellement. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Donc, on va refermer cette page aujourd'hui. On va fermer cette page aujourd'hui et on se retrouve tout de suite après la musique. On fait une petite page musicale pour parler des ovnis et de la recherche des formes exogènes de vie. Alain, à tout de suite après cette musique. Alors voilà, juste après cette petite pause musicale, nous revenons dans les portes de la connaissance, une émission spéciale aujourd'hui qui est faite. Et oui, alors on a parlé d'étoiles, on a parlé d'univers. Effectivement, l'univers c'est quoi ? C'est tout simplement un ensemble de choses qui font que la vie existe, et sans cette chose particulière, le Big Bang, sans les étoiles, il n'y aurait pas de vie dans l'univers. Alors la vie dans l'univers, en parlons-en justement. La seconde partie de l'émission consacrée aux ovnis. Alors, les ovnis, faut savoir que c'est un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre. Il y a eu beaucoup d'invités, dont Jean-Pierre Petit, qui est venu sur, et Christophe Hessen, qui sont venus sur ce plateau. Je cite pas tout le monde, hein. Il y en a plein qui sont venus faire des émissions sur les ovnis. C'est un sujet brûlant parce que c'est très controversé. Il y a beaucoup de gens, alors moi j'y crois beaucoup, mais après je respecte ceux qui n'y croient pas ou ceux qui ont des doutes. Mais je crois que il faut savoir que s'il y a de la vie dans l'univers, il y a forcément des moyens de locomotion. Vous savez que nous, on a des fusées, d'accord ? On est capable d'aller sur la Lune. On est capable bientôt d'aller sur Mars. Bon, imaginez qu'on soit capable d'aller beaucoup plus loin. Avec des vaisseaux, dans 1000 ans, avec des vaisseaux beaucoup plus perfectionnés, on irait forcément à la rencontre d'autres planètes et on tomberait forcément sur une planète où il y aurait des habitants qui regarderaient dans le ciel et diraient « Oh, regardez, c'est quoi ce point brillant ?» Alors, ne soyons pas fermés et essayons d'imaginer que nous sommes à la place des exogènes et que nous voyageons dans l'univers et nous rencontrons, comme Christophe Colomb, des nouveaux mondes. Et là, nous voyons effectivement des habitants en bas qui nous regardent. Nous ne nous posons pas parce que nous ne voulons pas influencer leur mode de vie, parce que nous sommes intelligents, ce qu'ils font, eux, évidemment. Et ils nous observent en disant « Oh, un ovni, vous avez une soucoupe volante ». Voilà, ils appelleraient pas ça comme ça, mais nous, on appelle ça comme ça. Et donc, ce qui veut dire que cette forme de civilisation est forcément une forme de civilisation qui nous observerait et qui nous prendrait pour des êtres hyper intelligents. Donc, nous, on est dans le cadre où on n'est pas capable d'aller sur une étoile, autre que notre étoile qui est le Soleil. Donc, on imagine mal que des civilisations puissent venir nous visiter. Mais sachez que dans l'univers, il y a des civilisations qui sont beaucoup plus évoluées que la nôtre, et qui ont des millions d'années d'avance sur nous, qui ont des technologies qui dépassent l'entendement, qui sont capables de voyager à des vitesses extrêmement élevées, d'utiliser des raccourcis de l'espace-temps, comme on appelle ça, puisqu'on peut plier l'espace, d'après Einstein, on pouvait plier l'espace, on pouvait raccourcir les distances, des théories le prouvent, je ne les expliquerai pas, mais des théories le prouvent, ce qui voudrait dire qu'on fonctionne sous le processus de la réduction du temps. C'est-à-dire que plus vous voyagez vite, plus le temps ralentit, et plus vous pouvez voyager loin, sur de grandes distances, sans trop vieillir. C'est-à-dire qu'un voyage de 1000 ans ne durerait que 40 ans dans un vaisseau, parce qu'il y a la dilatation du temps qui rentre en compte. Donc ces formes de vie pourraient voyager à la vitesse de la lumière, ou très proche de la vitesse de la lumière, tout en contractant le temps, et pourraient venir nous voir, nous rencontrer, bien avant qu'ils soient morts. Donc, on peut très bien imaginer que ces civilisations venues de très loin puissent venir nous visiter, et ou alors que ce soit des civilisations qui faisaient partie de la Terre, qui se seraient restées dans les parages et nous surveilleraient aujourd'hui. Alors, la théorie est la suivante, et on va revenir aux anciennes civilisations après. Vous avez les Égyptiens. Vous avez des civilisations qui ont marqué le temps, et qui, pour moi et pour beaucoup, étaient des civilisations qui ne faisaient pas partie de la Terre, qui étaient venues, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, on prouvera que ces civilisations étaient plus exogènes, qui sont venues nous visiter plus que humaines. Il y avait la civilisation humaine, bien entendu, sur Terre, qui était installée depuis longtemps, puisque la civilisation humaine est installée depuis longtemps sur Terre, mais il y a des exogènes qui sont venus nous apprendre un savoir, nous transmettre ce savoir. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, on en parlera. Voilà, donc les ovnis, oui, il y en a énormément. Chaque année, c'est des milliers d'observations. Des abductions, il y en a. Alors ça, c'est un domaine très controversé, c'est très délicat d'en parler à la radio, mais il y a des abductions, soi-disant, de gens qui se feraient enlever pendant leur sommeil et qui, on leur prélèverait du sperme et des ovules pour fabriquer une race hybride. Alors c'est très délicat d'en parler parce que ça va chercher très très loin, c'est très poussé comme recherche, mais sachez une chose, c'est que dans le cadre où nous serions à leur place, nous pourrions faire éventuellement la même chose pour fabriquer une race, je dirais, mi-extraterrestre, mi-humaine, douée d'une beauté humaine, parce que la race humaine est certainement douée d'une très grande beauté physique et d'une très grande intelligence du côté exogène. Donc, il y a des théories, toutes sortes de théories qui parlent d'abduction, il y a des théories qui parlent il y a des observations d'ovnis qui sont faites à travers le monde entier. Vous avez les témoignages de Roosevelt, qui a été très controversé. Vous avez les témoignages de Varginha. Vous avez des témoignages en Russie de soucoupes qui ont été récupérées par les Russes. En Allemagne, dans la forêt noire, on aurait récupéré une soucoupe volante. En Afrique, une soucoupe volante aurait été récupérée en Afrique aussi. Donc, il y a effectivement différentes partie du monde où des épaves d'ovnis qui se seraient écrasées auraient été récupérées par des instances militaires et ça gardé sous secret militaire pour que jamais on ne sache vraiment véritablement la vérité. Donc des technologies, il faut savoir qu'on en a. On en a récupéré sur ces ovnis. D'ailleurs, vous avez des preuves. Vous avez les avions furtifs américains et les missiles russes qui sont de fabrication copiés sur des technologies exogènes. Pourquoi ? Parce qu'elles utilisent les champs MHD. Le MHD, c'est de la magnéto-hydrodynamique. Ce sont des champs électromagnétiques qui permettent de faire circuler un vaisseau spatial ou un avion ou tout simplement un missile avec un champ électromagnétique autour de lui qui lui permet de glisser comme une savonnette. Vous prenez une savonnette entre les mains, vous poussez dessus avec les mains, la savonnette vous glisse des mains et elle est propulsée. Et plus vous poussez fort sur la savonnette, plus elle va loin, plus elle va vite. Là, c'est pareil. Vous avez autour, comme une taupe, la taupe, elle creuse, et plus elle creuse vite, et plus elle enlève la terre devant, elle la projette vers l'arrière. Ben là, c'est pareil. Le plasma est attiré, l'air est attiré de devant vers l'arrière, grâce au champ magnétique, et il est refoulé vers l'arrière, et vous glissez comme une savonnette dans l'atmosphère, et vous allez très vite. C'est le champ MHD, magnétohydrodynamique, étudié par Jean-Pierre Petit. Voilà, et vous avez des études qui sont faites sur les champs de gravité par les Américains dans des zones secrètes. Et bien sûr, les gens vont vous dire « Ah oui, mais tout ça, c'est du bluff, c'est pas vrai, c'est du pipeau. » Ben, disons que on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Vous savez, tant qu'on n'a pas de preuves photographiques et tant qu'on n'a pas d'image de ces bases pour savoir ce qui s'y passe, on peut dire tout ce qu'on veut, effectivement. Vous savez que quand vous avez un bon bombardier B2 ou un avion furtif américain qui survole un pâté de maison et que vous l'entendez survoler le pâté de maison qui se stabilise en vol stationnaire sans aucun bruit. Donc, il n'a pas de réacteur, pas d'hélice. D'accord ? Et que vous le voyez ensuite partir à une vitesse fulgurante avec un flash lumineux. Vous vous posez la question de savoir s'il ne fonctionne pas sous MHD, donc sur la même énergie qu'utilisée par les exogènes, ou un champ d'antigravité, et pourquoi pas utilisé par les humains, récupéré sur des espaces d'OVNI. Donc vous savez, des preuves accumulées, il peut y en avoir énormément. Des pilotes de ligne du monde entier ont témoigné ayant vu des OVNI. Et c'est pas n'importe qui les pilotes de ligne. Vous avez le commandant Grélé, vous avez d'autres pilotes de chasse, des pilotes de ligne, des gens confirmés, des militaires, des gendarmes, des scientifiques, toute cette panoplie de gens qui regardent le ciel, qui observent et qui vous disent « moi j'en ai vu ». Et je peux vous dire que c'était pas un objet terrestre. Et Jacques Green en est un. C'est un ancien pilote d'essai, C'est pas n'importe qui. Il en a vu. Il a témoigné. Et je peux vous dire que c'est pas des hallucinations comme on veut bien nous croire. Vous faire croire, vous dites « Ah oui, mais vous avez vu un oiseau ou une étoile. » Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous savez, je crois qu'il y a des thèmes qui sont très intéressants quand on étudie l'ufologie. Regardez une étoile, regardez. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? C'est statique, ça ne bouge pas. C'est lumineux et ça scintille légèrement quand l'été, par exemple, les brumes de chaleur font scintiller l'étoile à travers l'atmosphère. Ça ne bouge pas. Vous avez un objet qui on peut pas prendre un ovni pour l'étoile Vénus, évidemment. Vous avez un objet observé par un observateur qui est statique, qui ne bouge pas. Puis d'un seul coup, qui change de couleur, du rouge, du bleu, il passe au violet, et qui accélère à plus de 10 000 km à l'heure, et qui fait des virages à angle droit. Vous ne pensez pas que c'est une météorite. Une météorite ne fait pas de virage à angle droit. Donc imaginez bien que c'est un objet non terrestre, qui est exogène, et qui fait partie des objets qui sont observés par des tas de militaires, par des tas de pilotes de ligne. Donc, faut arrêter de polémiquer et de dire que ce n'est pas vrai et que ça n'existe pas. Il y a un phénomène. Alors, qu'est-ce que c'est que ces objets ? Par qui sont-ils pilotés ? Ça, on ne le sait pas, évidemment. Est-ce qu'ils sont exogènes ? Normalement, oui, puisqu'ils sont fabriqués par des civilisations qui sont plus intelligentes que nous. Pour fabriquer des objets comme ça, il faut être très intelligent. Mais d'où viennent-ils ? Ça, on ne le sait pas. Voilà. Et quelles sont leurs intentions ? On ne le sait pas non plus. Moi, j'ai une petite idée de ce que pourraient être leurs intentions, et d'autres ont des petites idées, mais on ne développera pas le sujet aujourd'hui, parce que on fera une émission spéciale OVNI une fois, et on en reparlera. Enfin voilà, ça c'est le sujet OVNI, c'est pour parler de ce qui est plausible sur le plan de ce que vous observez chaque jour quand vous voyez un OVNI. Et n'ayez pas peur d'appeler des associations ufologiques. Et vous avez le MUFON, qui est une institution internationale qui étudie les ovnis, qui était dirigée par Jenny Charroux à l'époque, en France. Et ces institutions étudient les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer et d'aller parler de ce que vous voyez quand vous voyez un ovni. Il faut en parler autour de vous. Faut pas avoir peur d'en parler. N'ayez pas honte d'en parler dans les médias. N'ayez pas honte. C'est pas parce qu'on vous montre du doigt que vous devez avoir honte d'en parler. Il y a des phénomènes. Il faut savoir que ça existe bien. Les plus grands scientifiques du monde les étudient. Vous avez des gens comme Brian Greene qui s'y intéressent. Vous avez des astrophysiciens qui aujourd'hui prennent ça au sérieux. Vous avez des grands pilotes de ligne, des pilotes de chasse qui s'y intéressent, des militaires. Donc, faut arrêter de dire que ça n'existe pas. Ça existe, effectivement, mais on ne sait pas à quoi on a affaire exactement. Voilà. Voilà pour ce qui est de la page des ovnis. Donc, on a fait un petit tour sur l'ufologie et les invités qu'on avait eus sur le plateau. Ben, on les remercie infiniment d'avoir témoigné. Il y aura encore quelques émissions sur les ovnis, comme sur les étoiles. Il y en aura de temps en temps. J'en ferai pas souvent, mais j'en ferai de temps en temps encore. Vous aurez l'occasion d'avoir des gens des grandes pointures de la science, des grandes pointures de l'ufologie à nouveau. Maintenant, on va passer à un autre volet. On va passer au volet des anciennes civilisations. Et ce sera le dernier volet de cette émission d'aujourd'hui. Mais avant, une petite musique qui va nous mettre dans le bain, et je vous rejoins tout de suite après. Thank you. Alors nous voici de retour sur les ondes d'Aude Radio pour les Portes de la Connaissance, un volet spécial émission de l'anniversaire des 2 ans de l'émission Les Portes de la Connaissance. Donc on n'a pas d'invité aujourd'hui, alors pour ceux qui nous rejoignent, ben, vous pourrez écouter l'émission en podcast, bien sûr, puisqu'elle va être remise en ligne tout à l'heure. Après le volet des étoiles, de l'univers, après le volet des ovnis, on arrive au volet des anciennes civilisations. Alors, les anciennes civilisations, il y a plein de choses à dire. C'est gigantesque le nombre de renseignements qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, vous avez bien sûr toute la théorie standard qui est celle, mais qui existe, qui est véridique, qui est vraie, où vous avez l'homme de Cro-Magnon, de Néandertal, les hommes préhistoriques qui ont vécu autrefois, qui est l'homme, je dirais, l'homme qui a vécu autrefois, puisqu'on a découvert des crânes qui prouvent que l'homme se développait au fur et à mesure, petit à petit, et se transformait, et que sa mutation faisait qu'il progressait dans sa façon de chasser. On a des silex qu'on a découverts, on a beaucoup de choses qui ont été découvertes, et on a découvert qu'il avait découvert le feu, on a découvert des dessins sur des grottes rupestres qui prouvent qu'il a existé. Alors les gens qui diraient que tout est exogène et que tout est venu sur la Terre de civilisation exogène, je pense qu'il y a une part de vérité sur certaines choses, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il y a aussi l'homme qui a vécu sur la Terre, qui a été l'homme primitif, qui a existé et qui existe, parce qu'on a des preuves. Voilà, on a des dessins sur des grottes, des dessins qui ont été faits, et on a effectivement des anciennes civilisations qui ont bien vécu à l'époque, qui sont de nature terrestre. Ça, faut bien le préciser. Puis après, on a les anciennes civilisations qui sont venues comme ça, on ne sait pas d'où, à qui on sont passés de l'âge de la peau en peau de bête, excusez-moi, en peau de bête, à l'homme beaucoup plus évolué. Et on ne sait pas pourquoi ce mot évolutif s'est fait, je dirais, rapidement. En quelques milliers d'années, on ne sait pas pourquoi, on est passé de l'âge de pierre au silex et au feu, on est passé à ça, on est passé au silex et au feu, on est passé à autre chose de beaucoup plus élaboré. Donc cette chose beaucoup plus élaborée, c'était les anciennes civilisations que nous connaissons, égyptiennes, incas et autres civilisations. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ancienne civilisation? D'où viennent-elles exactement? D'où viennent ces anciennes civilisations? Et pourquoi ont-elles fait un bond évolutif important? C'est ce que nous demandons. Vous passez de l'âge de la peau de bête, c'est comme si vous étiez... Regardez, vous prenez un exemple. Vous avez un enfant qui apprend à marcher et qui apprend à construire un jeu avec des Legos. Alors, il apprend à marcher, il fait des jeux avec des Legos, il apprend à construire et à emboîter des Legos. Et puis, d'un seul coup, le lendemain, juste le lendemain, il se met à écrire et à lire et à faire des mathématiques. Alors, comment a-t-il fait ce bond évolutif sans avoir eu l'occasion d'apprendre cette chose-là? Voilà, et bien là, c'est pareil. Vous passez de l'homme en peau de bête à l'homme qui a construit des pyramides, qui a fait des mathématiques, qui a eu un langage et qui observait les étoiles et avait des notions d'astronomie importantes. Comme ça, en l'espace de quelques... Bon, pas en l'espace de 2 jours, évidemment, mais en l'espace de quelques milliers d'années ou quelques centaines d'années. Donc, vous vous demandez comment l'homme a-t-il pu faire cette prouesse extraordinaire qui montre que c'est absurde. C'est complètement absurde. Voilà. Donc, non. Il y a vraiment des questions à se poser. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc, on pense que, comme les pyramides sont alignées avec la constellation d'Orion, et ça, c'est la vérité, elles sont pointées sur la constellation d'Orion, pile pointées dessus, comme les pyramides sont le reflet de certaines choses qui montrerait que ce seraient des civilisations évoluées qui seraient venues nous enseigner à construire des bâtiments. Jacques Grimaud, Patrice Pouyard, Bleuette Diot, et j'en passe, et il y en a bien d'autres, qui font des recherches poussées dans ce genre de domaine. Vous avez Thierry Jamin, qui est un grand explorateur là-bas au Pérou. Vous avez beaucoup de gens qui s'intéressent aux anciennes constructions et qui se posent des bonnes questions. Et savoir quelles sont ces constructions et qui les ont façonnées. Mais l'archéologie standard vous dira qu'ils ont fabriqué les pyramides avec des esclaves, chose facile à dire. Je ne critique pas le travail de ces gens qui font un travail formidable, mais réfléchissez un peu. Imaginez construire une pyramide de 2,5 millions de blocs de pierre en 20 ans. En 20 ans, je dis bien. Chose que le constructeur du viaduc de Millau a réfuté pouvoir faire avec les machines que nous avons aujourd'hui dans ces temps-là. Il a dit, en 20 ans, je ne peux pas faire ça. Même avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas avec des milliers d'esclaves qu'on peut faire la même chose. Donc, voilà, construire des pyramides comme ça, non. C'est inenvisageable avec des maillets en pierre et des burins en cuivre pour soulever des blocs de pierre de plusieurs dizaines de tonnes, des colosses qui ont été construits qui pèsent plusieurs centaines de tonnes. Vous avez les statues de Luxor qui sont parfaitement superposables, joue droite, joue gauche, au dixième de millimètre. Vous pouvez pas faire ça avec des burins en cuivre, faire des joues superposables d'un côté et de l'autre au dixième de millimètre quand vous faites la superposition. Non, je veux dire, il y a des incohérences. Quand on réfléchit et quand on se creuse la tête, on se dit qu'il y a des incohérences, qu'on ne peut pas faire ça avec des maillets en cuivre et des burins en cuivre, et des maillets en... C'est pas possible. On ne peut pas. Ce n'est pas envisageable. Il y a forcément les plus grands ingénieurs de construction du monde en bâtiment moderne. On dit, laissez-nous faire, nous allons vous expliquer comment ils ont fait ça avec des moyens modernes. Ils avaient certainement des machines pour le faire. Mais les machines, on n'en trouve pas la trace. Évidemment, vous laissez une machine pendant 3000 ans sous la pluie, elle va rouiller, elle va disparaître, vous n'en trouverez aucune trace. Donc, non, je crois que non, il y a autre chose. Quelles étaient ces machines ? Qu'ont-ils utilisé comme moyen technologique ? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas, on n'en a pas de preuves. En tout cas, s'il y avait des preuves, elles ont été bien cachées. Mais les anciennes civilisations étaient forcément des anciennes civilisations venues, pour moi, d'une autre planète et qui nous a enseigné tout ça. Ils avaient effectivement des portes des étoiles, on en parle beaucoup. Et en Égypte, on en a découvert une. Au Caire, on en a découvert une. Là-bas, en Irak, il y en avait une qui était sous le musée de Bagdad. Des portes des étoiles. Qu'est-ce que viennent faire des portes des étoiles, tirées du film La Porte des Étoiles, à cette époque-là? Donc non, ils avaient des technologies surprenantes et ces gens sont venus construire quelque chose. Ils nous sont venus nous laisser un savoir. Est-ce que ce sont ces ovnis que nous voyons aujourd'hui qui nous survolent autour de la Terre, qui nous surveillent étroitement, qui seraient ces anciennes civilisations qui auraient muté vers autre chose pour pouvoir ensuite nous laisser grandir en humains, croisés génétiquement entre humains et hybrides? C'est possible, tout est envisageable. Alors c'est très exagéré ce que je dis parce que il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais là ça va chercher loin. Vous savez, l'imagination est chez l'humain est quelque chose d'extraordinaire. Des films de science-fiction ont été faits sur ces thèmes pour ouvrir les yeux au grand public et dire réfléchissez à ce que vous avez vu et imaginez que c'est peut-être possible. La science-fiction n'est pas un domaine inexploitable sur le fait où c'est impossible. C'est pour ouvrir les yeux au grand public et dire maintenant vous avez fait rêver, maintenant à vous de réfléchir à ce que vous avez vu. Rencontre du troisième type, Abyss, La guerre des mondes, etc. Tout ça, ce sont des films qui vous montrent une partie de la vérité. Sous ces films, on vous montre la vérité. On vous donne des indices. Donc, sachez qu'une chose, c'est que de toute façon, ces anciennes civilisations avait autrefois une façon de vivre qui nous est probablement inconnue parce qu'on a des dessins, on a des preuves qui nous montrent qu'ils vivaient d'une certaine manière, mais on ne sait pas beaucoup de choses sur eux. Quand vous avez le Machu Picchu, voilà, le Machu Picchu qui a été construit sous en hauteur à plus de 2000 mètres d'altitude, et que le Machu Picchu, les blocs de pierre qui pesaient plusieurs dizaines de tonnes, n'auraient pas pu être montés sur la montagne avec des hommes tirant les blocs de pierre. C'est impossible. Non, il y a autre chose. Il y a certainement d'autres explications. L'île de Pâques, c'est pareil. Il y a des moaïs qui ont été construits, qui regardent vers la mer, d'autres vers les terres. Des statues qui ont été transportées sur des dizaines de kilomètres. Non, il y a des explications, mais ce sont pas celles qu'on nous donne. Il y a d'autres explications. Alors, je ne suis pas là pour dire que je sais, que j'ai la réponse, mais il y a certainement des explications valables qui nous expliqueraient comment ils ont fabriqué tout ça avec des machines. Certainement, ils avaient des moyens modernes, des moyens mathématiques. Ils les avaient. Ils connaissaient le système métrique. Ils faisaient des équations. Ils connaissaient très bien l'astronomie. Et des peuples anciens, les anciennes civilisations terrestres originelles, qui sont restées les peuples humains originels, c'est-à-dire les indigènes, qui sont eux originaires de la Terre, aujourd'hui qui sont sur la Terre, ont des connaissances d'astronomie souvent aussi bonnes que les astrophysiciens modernes. Donc où ont-ils été chercher ça alors qu'ils ne savent, ils savent à peine lire et écrire? Non, on leur a enseigné quelque chose, on leur a laissé quelque chose, une trace, et ce sont ces civilisations qui sont venues sur la Terre qui nous leur ont laissé quelque chose. Puis il y a plein de choses qu'il y a à dire. On fera une émission spéciale Porte des Étoiles sur les civilisations exogènes, on en parlera bientôt. Voilà. Voilà, je crois qu'on a refermé le volet des anciennes civilisations, on va pas aller plus loin aujourd'hui. Les portes de la connaissance s'arrêtent là pour aujourd'hui. On va accueillir bientôt des nouveaux invités. La semaine prochaine, on accueille des nouveaux invités. Voilà. Je vais vous laisser. Retournez à votre week-end de Pâques. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un invité surprise. Bien entendu, vous aurez Alors, surveillez bien le site d'O2 Radio. Surveillez bien la page Facebook d'O2 Radio. Je diffuse 2 ou 3 jours avant l'émission qui va être diffusée, sachant ce qui va être diffusé. Voilà. Merci à tous. Merci, je vous dis à bientôt. Et je vous dis à vendredi prochain et bon week-end de Pâques.
Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.